Bonjour à tous, aujourd'hui enquête sur les coulisses d'un naufrage et en l'occurrence celui du Parti Socialiste. Dans quelles conditions les permanents ont été licenciés? Qu'a-t-on fait du siège de la rue de Solferino? On va voir ça avec vous Isabelle Souquet, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons le journaliste Mathieu Suc, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes un spécialiste des questions de terrorisme et au moment où beaucoup s'inquiètent de voir revenir les djihadistes français de Syrie, eh bien vous, vous nous direz qu'en réalité, ils ne reviennent quasiment pas.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
J'ai échoué à déjouer... S'il vous plaît. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimé envers le Parti Socialiste.
Alors, vous avez évidemment reconnu la voix de Benoît Hamon, qui s'exprimait au soir du premier tour de la présidentielle en 2017. Il n'a alors enregistré que 6% des voix, et ses propos préfigurent la descente aux enfers d'un parti qui, quelques années auparavant pourtant, disposait encore de tous les leviers du pouvoir. Alors, que s'est-il passé depuis cette funeste soirée? Comment le Parti Socialiste a fait face à ses difficultés financières? C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais ce qu'on peut peut-être remarquer, pour commencer, Isabelle Souquet, c'est que si ce naufrage se dessine bien avant la défaite du candidat socialiste, eh bien il s'accélère avec le départ du premier secrétaire.
Oui, parce que cette tragédie pour le PS s'est en fait jouée en trois actes. Le premier plutôt lentement, le PS paie sa désunion sous le règne de François Hollande. Le deuxième, c'est le premier tour de la présidentielle. Et le troisième, lui, se joue effectivement quelques semaines plus tard, lors des législatives. Le nouveau mouvement d'Emmanuel Macron en marche remporte 308 sièges à l'Assemblée nationale, contre 30 seulement pour le PS. Le revers est très rude et le premier secrétaire du parti de l'époque, Jean-Christophe Cambadélis, l'a encore en travers de la gorge.
Le soir du deuxième tour des élections législatives, qui a clos la séquence commencée par les élections présidentielles, j'ai annoncé que je ne me représenterai pas au poste de premier secrétaire et je me suis retrouvé tout seul dans Solferino, vide, sans un coup de téléphone de personne. Dans cette soirée, non seulement j'étais battu aux élections législatives, ce qui n'est jamais agréable, mais en même temps, je me retrouvais sans aucune aide de rien pour décider de l'avenir de cette formation qui a quand même structuré la vie politique depuis très longtemps.
Ce soir-là, il accuse le coup, hein, Jean-Christophe Cambadélis. Bon, cela dit, passez le choc, Isabelle, il y a une autre réalité de terrain à laquelle il va devoir se confronter.
Et cette réalité, elle aussi, elle est rude parce que ce parti était un parti riche qui s'était habitué à un train de vie confortable. Or, il se retrouve tout d'un coup avec la perspective de voir ses caisses vides. Et pour une raison très simple, explique Jean-François Debat, l'ex-trésorier du parti.
Nous avons vécu avec une dotation publique qui était montée à 28 millions d'euros. En 2014, cette dotation est redescendue à 25 millions d'euros puisqu'il y a eu une diminution décidée par le précédent gouvernement de 10% de toutes les dotations aux partis politiques. Nous avons vite fait les calculs, nous savions bien qu'il était peu probable que nous ayons le même degré de financement. Et effectivement, le 18 juin, nous avons constaté que le Parti Socialiste obtenait 1,7 million de voix, ce qui nous amenait à une dotation d'environ 6 millions et demi d'euros, à comparer donc aux 25 que nous avions précédemment. Et donc, nous savions qu'à partir de ce moment-là, que le budget du PS devait être divisé par 4, minimum, dès l'année 2017.
Ouais, divisé par 4, ce qui fait quand même 100 millions en moins sur 5 ans. Hein. Et cette réduction de la dotation fait d'ailleurs d'autant plus mal, Isabelle, que vous le disiez, le PS s'était habitué à vivre sans trop regarder à la dépense.
Oui, en off, un ancien cadre du parti plaisante même sur ce thème. Conditions de travail, salaires, avantages sociaux, le paradis socialiste, dit-il, on l'avait inventé, c'était à Solferino. Un chef de service, d'ailleurs, ou un patron de service d'ordre du parti pouvait ainsi émarger aux environs de 7000 euros. Alors oui, les salaires et les conditions de travail étaient plutôt très confortables. Michel Pouzol, l'ancien député PS, a d'ailleurs été effaré de voir quel était le train de vie de sa formation.
Ce parti a fonctionné d'une manière un peu hégémoniste, de manière de grosse machine. Enfin, c'était de l'aristocratie de la politique, comme le RPR à son temps, l'UDF, enfin voilà. Quand vous êtes dans un parti aussi fort que le Parti Socialiste, que vous aviez tous les pouvoirs, on se rendait compte qu'à un moment donné, effectivement, on avait fait beaucoup de salariés avant de faire des militants.
Oui, qui dit beaucoup de salariés, dit aussi beaucoup de masse salariale et une masse salariale qu'on ne peut plus assumer.
Eh bien oui, passé les législatives, le PS allait dans le mur. Jean-François Debat, l'ancien trésorier du PS, a beau tourner le problème dans tous les sens, il comprend très vite qu'il va lui falloir prendre des décisions douloureuses.
J'ai vite vu à ce moment-là qu'il y avait deux choses qui n'étaient pas possibles. Notre masse salariale était de 12 millions d'euros et nous allions avoir un budget d'environ 8. Donc on voyait très vite, il n'y a pas besoin d'être fort en maths, hein, que garder nos 100 quelques permanents à 12 millions d'euros avec un budget total de l'ordre de 8, ça ne pouvait pas faire l'affaire et que nous devions engager rapidement bien une procédure de plan social.
Et une procédure de plan social, Isabelle, ça se traduit comment au PS ?
Finalement, comme dans n'importe quelle entreprise, on fait les comptes, on identifie les postes essentiels et ceux qu'on peut supprimer, et peu à peu, on réduit le nombre de salariés.
Nous étions en 2015 dans environ de 120 permanents. J'avais fait réduire ce chiffre, nous étions aux environs de 105. Certains contrats n'étaient plus renouvelés et nous avons terminé à 42. Donc ça veut dire qu'il y a eu plus de 60 suppressions de postes, certains départs en retraite, mais globalement le plan social a porté sur environ 60% des effectifs.
Oui, 60%, ce qui est quand même énorme. Et alors comment on vit ça à l'intérieur du parti ?
Eh bien très mal en tout cas si on en croit plusieurs ex-salariés que nous avons rencontrés, comme Éric Plumer. Lui, c'est une figure du PS, surnommée Jaurès par les militants, le massif patron du service d'ordre pendant 18 ans et seul permanent. Il a été à la tête de 500 bénévoles et on n'a pas pris de gants avec lui.
J'ai appris brutalement mon licenciement économique. Il m'a fait voir l'organigramme futur, que là j'ai vu que mon poste n'apparaissait plus. Et dans la seconde qui suivait, j'ai compris que j'étais licencié. Avec des propos indignes d'un parti de gauche, on va dire. Très blessant sur mon âge, en me faisant comprendre qu'il était temps que je parte, vu l'âge avancé que j'avais. Qu'il était temps que je m'intéresse à ma famille, enfin, etc. C'est des termes très... qui m'ont beaucoup froissé. Et donc ça a été très très dur, cette façon de remercier, on va dire, lorsqu'on a tout donné pour un parti, c'est quelque chose de très dur.
Ouais, très dur, bon, cela dit, par nature, être licencié, c'est forcément très dur, Isabelle. Alors est-ce que pour autant, vraiment, au PS, on a été plus dur qu'ailleurs ?
C'est difficile de répondre à ça, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les salariés s'attendaient à être traités différemment parce que, dans leur parti, il y a un discours qui prétend s'appuyer sur des valeurs. Alors le choc a été d'autant plus rude que dans ces structures, dans lesquelles on s'investit beaucoup, on ne compte pas ses heures, on oublie parfois sa vie privée, alors on n'imagine pas se retrouver un jour dans ce type de situation. Donc, effectivement, beaucoup m'ont dit avoir été très choqués de la façon dont ils ont été traités, et parmi eux, Karine Gautreau, qui était chef du service presse et communication du parti.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on pouvait s'attendre à quelques mots, ne serait-ce que quelques mots de réconfort. Et ces mots ne sont jamais venus. La direction administrative s'est bornée, pour ceux qui ont été licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, eh bien, s'est bornée à leur fixer un jour pour aller récupérer le chèque qui correspondait à leurs indemnités de licenciement. Ils ont été reçus par quelqu'un plus froid qu'un miroir de glace. Et ils sont repartis avec leur chèque et ça s'est arrêté là. Et la brutalité de l'interruption d'une histoire professionnelle au sein du Parti Socialiste, quand elle était pour la plupart d'entre nous liée aussi à un investissement, à un engagement militant, ça a été très dur.
Oui, très dur aussi pour Éric Plumer, hein, qu'on a entendu tout à l'heure.
Oui, parce que lui a toujours considéré son travail avant tout comme un engagement militant. Et tout d'un coup, il se retrouve comme un salarié lambda à subir ce que généralement son parti dénonce chez les autres. Et quand ce genre de choses se produit, tous les bons sentiments disparaissent.
La famille a explosé complètement. Lorsqu'on a su ça, c'est évident. Hein. Il n'y avait plus ce climat familial, c'était fini. Je vous dis, c'était à la limite, mais pour tout le monde, c'était du sauf qui peut.
Oui, du sauf qui peut et un sauf qui peut qui se transforme, Isabelle, en un quasi-cauchemar.
Oui, alors au PS, il y a toujours eu des guerres de clans pas simples à gérer, mais là, tout d'un coup, les repères vacillent. La solidarité dont on faisait preuve vis-à-vis de ses collègues ne tient plus, et ce qui ressemblait jusque-là à un groupe soudé se transforme en foire d'empoigne, où chacun regarde l'autre en chien de faïence. C'est en tout cas ce que dit avoir vécu Karine Gautreau.
C'était une catastrophe, un cataclysme, parce que humainement, ça a été dégueulasse. Voilà, j'ai pas d'autres mots, mais c'est pas le licenciement. L'ambiance à Solferino, dès le deuxième soir de la primaire, l'ambiance était exécrable, mais vraiment exécrable. Et les gens étaient dans une forme de haine les uns vis-à-vis des autres. Et quand tout le monde a compris qu'il y avait pas d'autre possibilité que de licencier des gens, ça a été des vagues de haine et de croche-pieds non-stop à qui pourrait espérer sauver sa peau.
Sauver sa peau, oui. Alors là, Karine Gautreau ne parle plus de l'attitude de sa direction, mais bien là, des relations entre les permanents qui tournent à la rancœur. Bon, et à la direction ou à l'ex-direction du PS, Isabelle, on en dit quoi de tout ça? Est-ce qu'on assume d'avoir maltraité, comme ils le disent, les salariés?
Non. Jean-François Debat, l'ex-trésorier, lui dément. Il estime avoir fait les choses comme il faut, surtout au plan financier où une prime de départ a été quadruplée. Quant au plan humain, lui, il considère que quoi que l'on fasse, dans ces moments-là, on ne peut jamais apaiser la douleur des gens.
Tout le monde savait qu'il y aurait 60 licenciements. Ensuite, on met les noms, avec des critères extrêmement précis qui avaient été annoncés. D'ancienneté, de maintien ou pas des fonctions dans le nouvel organigramme. Mais entre savoir qu'il va y avoir 60 licenciements et voir son propre nom, évidemment, c'est pas la même chose. Donc moi, je ne commente pas. Je peux comprendre toutes les réactions, mais je n'ai jamais, au cours de cette période, critiqué les voix qui se sont exprimées, anonymes ou pas, sur la situation. J'ai toujours respecté la douleur et la difficulté des salariés eux-mêmes. J'estime que, voilà, même si parfois je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, ils exprimaient aussi ce qui venait de leur trip et ce qui correspondait à leur propre situation, et ça doit se respecter.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu comment dans le sillage des législatives, l'EPS a dû licencier 60% de ses permanents à Paris. On a vu que ce plan social a été très mal vécu par beaucoup d'entre eux. Maintenant, regardons aussi ce qui s'est passé en région, Isabelle Souquet, parce que là aussi, on a supprimé beaucoup de postes.
Oui, là c'est pareil, c'est la suite d'une longue descente aux enfers, parce que les fédérations récupèrent une partie des cotisations des élus. Donc, moins on a d'élus et de militants, moins on a d'argent, et plus on doit faire des économies parfois drastiques. Résultat, les instances locales du PS, elles aussi, ont souffert après les législatives, explique l'ex-député socialiste Michel Pouzol.
Il y a des fédérations qui étaient déjà à l'agonie. Moi, j'ai fait le tour de France pendant la campagne de Benoît Hamon. Les différentes fractures qu'il y avait eues et la défiance des Français, quand même, pour ce qu'on avait fait pendant 5 ans, avaient déjà affaibli quand même les fédérations. Certaines ont revendu effectivement leurs locaux, je crois que c'est le cas dans les Bouches-du-Rhône. Je sais qu'il y a des fédérations qui sont en grand danger, mais oui, il y a des fédérations où il y a eu aussi des plans sociaux, où il y a eu des locaux revendus.
Des locaux revendus, et ils sont nombreux à l'avoir fait.
Non, 3 fédérations seulement ont dû revendre leurs locaux, mais il faut savoir que la plupart d'entre elles sont locataires. Et une 30aine n'ont maintenant plus de permanents. En fait, aujourd'hui, il n'y a même plus un poste à temps plein par fédération. Le parti a dû aussi parfois renouer avec le système D, comme à Strasbourg, où les travaux faits cet été dans les locaux ont été faits par les militants eux-mêmes. Et quand on les interroge, ils disent que ce n'était pas arrivé depuis 20 ans.
Bah, ils réapprennent le militantisme, en quelque sorte. Bon, et comment ça se passe dans ces cas-là, Isabelle? Est-ce que c'est Paris qui décide de supprimer aussi des postes en région, ou est-ce que c'est chacun qui fait son ménage localement?
En l'occurrence, c'est en région, parce que chaque fédération est autonome et gère sa structure avec parfois quand même un petit coup de pouce, explique Jean-François Debat.
Nous avons aidé certaines à assumer le coût des licenciements, mais globalement, chaque fédération a géré sa propre situation.
Au total, en province?
Je l'évalue aux environs du même nombre, au moins, c'est-à-dire probablement aux environs de 80. Le nombre de postes qui ont été ou sont en train d'être supprimés.
80 postes sur combien au total?
C'est un peu compliqué à cerner parce que les fédérations n'ont pas forcément un poste entier pour chacune. Il y a beaucoup de temps partiel. Mais en gros, on peut effectivement dire qu'il y a environ 80 personnes dont le travail a été diminué ou supprimé.
Oui, sachant que certaines fédérations s'en sortent mieux que d'autres.
Oui, en Côte d'Or, par exemple, la fédération de François Rebsamen s'en est plutôt bien sortie. Il nous explique comment il a fait.
ben on a fait appel aux cotisations des élus, mais parce qu'on a des élus municipaux, des maires, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux. Donc chacun a mis un peu la main à la poche pour compenser la perte du national, c'est-à-dire de la dotation qui nous était versée. Donc il n'y a pas eu de drame en Côte d'Or, mais ça a dû être beaucoup plus difficile en Saône-et-Loire, par exemple, c'est juste à côté. Il faut que les élus qui nous restent fassent un gros effort si on veut continuer de financer un poste de permanent. Quoi. Voilà. Alors il y a des endroits où les élus acceptent, il y a des endroits où sûrement ils doivent moins accepter, puis il y a des endroits où il n'y a plus beaucoup d'élus ou pas assez d'élus pour financer. Et là, c'est ce qui est menacé, c'est l'histoire même du Parti Socialiste.
L'histoire même du parti, et c'est justement pour éviter que cette histoire s'arrête, Isabelle, qu'une autre décision a été prise, et là on revient à Paris, c'est celle de se séparer des locaux historiques du parti.
Oui, c'est la première décision qu'a prise Jean-Christophe Cambadélis au soir de la déroute des législatives. Il a considéré qu'il devait tirer un trait sur ce qui était pourtant un symbole de la grandeur du parti.
J'ai pris la décision de vendre Solferino. Pourquoi ? Parce que c'était le seul moyen d'avoir les moyens financiers de tenir pendant 5 ans et d'avoir un candidat à la prochaine présidentielle. Car les banques ne prêtent pas et un parti socialiste à 6%, ils ne vont pas s'engager dans des prêts. Donc c'était le seul moyen de maintenir la pérennité de ce courant politique.
Et pour maintenir l'EPS en vie, Isabelle, on joint donc les actes à la parole et on met en vente Solferino.
Oui, parce qu'à ce moment-là, il y a trois enjeux à relever pour le parti. D'abord, rembourser les dettes de campagne. Le parti a emprunté 8 millions d'euros au Crédit Coopératif qui avait exigé en garantie l'hypothèque de Solferino en cas de débâcle électorale. Ensuite, il faut provisionner une dizaine de millions pour être en mesure de présenter un candidat en 2022. Et enfin, il faut pouvoir racheter un siège qui coûtera moins cher que Solferino.
Et pour cela, on lance un appel d'offres, mais pas n'importe quel appel d'offres.
Non, sur ce coup-là, le PS essaie de rester fidèle à une partie de ses valeurs. C'est donc un appel d'offres sous condition qu'on va lancer pour ne pas confier les bijoux de famille à n'importe qui, explique l'ex-trésorier Jean-François Debat.
Nous avions exclu, donc avec un notaire, nous avions un certain nombre de critères qui nous permettaient d'exclure les offres a priori. Nous avions une clause qui disait que nous pouvions refuser sans aucune explication à donner une offre quelconque. Et les critères que nous étions définis entre nous, des monarchies pétrolières, des milliardaires russes, des fonds de pension extrêmement ultralibéraux et extrêmement agressifs, donc tout ceci. Et finalement, nous avons eu plusieurs offres. Et la mieux disante était une grosse PME française qui fait de l'immobilier et qui a acheté ce siège.
Une grosse PME et qui exactement ?
Alors elle s'appelle Absys, c'est une société foncière qui gère une trentaine de centres commerciaux, dont celui de Beaugrenelle dans le 15e parisien. Et elle devrait installer son siège social à Solferino après 2 ans de travaux.
Oui, en attendant, avec cette vente en tout cas, l'EPS lui a fait une belle opération.
Oui, avec ça, il en finit avec sa dette. Il avait acheté l'immeuble en 1986 à la Mutuelle de la Fonction Publique pour un peu moins de 8 millions d'euros. Il le revend 45 millions et demi. Ce qui fait une plus-value de 37 millions d'euros. Et comme il était propriétaire depuis 30 ans, il a un abattement d'impôt sur cette plus-value.
Ouais, donc il récupère une belle somme. Reste maintenant à trouver un nouveau siège, Isabelle. Et là, on va regarder du côté du sud de Paris.
Oui, plusieurs emplacements dans Paris ont été retoqués, trop vieillots, trop difficiles à moderniser. Le choix se porte donc sur un ancien bâtiment d'usine à Ivry qui vaut entre 6 et 7 millions d'euros, auquel il faut rajouter 3 millions de travaux. Le PS devrait s'y installer dans les jours prochains.
Et il ressemble à quoi ce nouveau siège ?
Alors il est 3 fois plus petit que Solferino, mais il est beaucoup plus fonctionnel. C'est une ancienne usine réhabilitée en 2010 en atelier d'artiste. C'est plein de grands open space avec toit en verrière et terrasse aménagée. On le met d'ailleurs bien en avant, ce côté start-up, en expliquant qu'il symbolise le rajeunissement et la renaissance du parti.
Ouais, ce qui d'ailleurs ne plaît pas à tout le monde. Hein.
Non, ce côté com a notamment du mal à passer chez certains poids lourds du PS comme François Rebsamen.
Pour les plus anciens, en région, dans les départements, dans les villes, la vente du siège central, ça a été quand même un choc. Un choc parce qu'en plus, c'était arbitré, ce choix était arbitré sur des considérations ou derrière des considérations idéologiques qui étaient complètement déplacées, du genre ça va nous permettre de renouer avec l'électorat populaire. J'ai entendu des bêtises comme ça
et pendant un certain temps, comme si le fait que le siège soit là ou là changeait la relation à l'électorat populaire. La gauche de gouvernement, en tous les cas, c'est ce que nous avait appris François Mitterrand, elle doit être dans les lieux de pouvoir. Ça n'a pas fait évoluer le Parti communiste d'aller s'installer place du Colonel Fabien dans le 20e arrondissement. Il n'a pas renoué pour autant avec l'électorat populaire.
Vous n'êtes pas vraiment convaincu, François Rebsamen. Hein. Mais il est vrai, Isabelle, que ce choix fait toujours débat. Hein.
Oui, les historiques ont accusé Jean-Christophe Cambadélis de brader l'histoire du PS. Il s'est fait traiter de liquidateur. Et d'autres continuent d'expliquer que les militants valent bien un siège parisien, que ce n'est pas pratique, trop loin des gares pour les adhérents de région. Mais d'un autre côté, certains cadres vous disent aussi en off que ça fera du bien aux socialistes de se poser un instant dans le métro en sortant de l'Assemblée ou du Sénat. En tout cas, quelques que soient les sentiments, on a dû plier devant la nécessité, se justifie Jean-François Debat.
Moi, ma responsabilité, avec d'autres, c'était de faire en sorte que le navire ne coule pas. C'était de préserver les conditions matérielles qui permettent à un nouveau projet politique de se réaliser. Dans l'ambiance de l'année dernière, ça n'était pas simple, parce que le message général qu'on entendait, c'est « pourquoi vous embêtez à ça ? De toute façon, vous êtes mort. » Ça pèse quand même sur le moral, sur, ce ne sont pas les meilleurs moments que j'ai pu traverser. J'ai fait ce que je crois on devait faire à ce moment-là. Mais là, c'était où l'outil existe encore et il y a possibilité de reconstruire quelque chose à partir de cet outil rénové, où l'outil meurt et dans ce cas-là, ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Et finalement, l'histoire nous dira si le Parti Socialiste, les socialistes peuvent renaître, c'est le but. Ce qui est certain, c'est que si on avait en plus laissé l'outil mourir complètement, il n'y aurait aucune chance que ça renaisse.
En attendant, les locaux d'Ivry devaient être inaugurés le 21 septembre, mais les travaux ont pris du retard, notamment l'aménagement d'une grande salle de réunion et d'un système de visioconférence pour limiter au maximum les déplacements, là encore, pour faire des économies.
Ouais, parce que le PS n'en a sans doute pas fini avec les difficultés.
Hein. Non, parce qu'il a encore trois crises à gérer en même temps. D'un côté, une crise budgétaire, de l'autre, une crise d'identité, depuis qu'Emmanuel Macron a fait bouger les lignes entre droite et gauche, et enfin, une crise de leadership, car beaucoup voient dans l'actuel premier secrétaire du PS, Olivier Faure, un homme de transition, mais pas un leader qui pourra porter le parti vers de nouveaux sommets.
Oui, je précise d'ailleurs qu'Olivier Faure, dans le cadre de cette enquête, malgré vos relances, n'a pas souhaité s'exprimer. Merci Isabelle Souquet. Je précise que votre enquête, on peut la réentendre ou même la lire sur franceinter.fr. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires sur le site d'Inter, mais aussi le faire sur la page Facebook de Secret d'Info ou sur Twitter Investigation RF. Mais pour l'instant, je vous propose de rester avec nous et vous allez voir dans quelques instants que les revenants de Syrie dont on se demande comment on va les réinsérer, eh bien on va voir qu'en fait ces revenants ne reviennent pas. It's like drinking from a fountain of youth. It's like swimming in a river. You, the way you touch me, it makes me shiver. And I wanna run to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you, you. It's like you got them superpowers. You, you make me bloom just like a flower. Devour me, you. It's better when we're together. Whatever you say, I just wanna stay with you forever. And I wanna run perfect with you, Ryan, to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you.
is perfect with you. Run to the edge of the earth with you. Yeah, I wanna run to the edge of the earth with you. Is perfect with you.
C'est sensuel, hein, avec juste un petit grain dans la gorge. C'était You You, extrait du nouvel album de la jeune chanteuse new-yorkaise Odetta Hartmann.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors, nous recevons maintenant Mathieu Suc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste des questions de terrorisme et vous venez de publier sur Mediapart un article qui bouscule les idées reçues sur la question de ce qu'on appelle les revenants, les djihadistes français qui reviennent de Syrie. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles avec des déclarations alarmantes sur un afflux de revenants dont on ne saurait quoi faire. Et vous, vous dites en fait qu'il y en a quasiment pas ou très peu de revenants.
Alors, pour être honnête, je dois vous avouer que moi-même, j'ai été surpris. C'était pas forcément l'angle de mon article quand j'ai démarré mon enquête. Et j'ai demandé, donnez-moi les chiffres sur 2016, 2017 et 2018. Donc, j'ai eu les chiffres qu'on publie et qu'on révèle. C'est-à-dire, il y a eu, je parle d'hommes et femmes, 33 revenants en 2016, 24 en 2017, et à l'heure où on parle, alors peut-être qu'il y en a un ou deux autres qui ont pu se glisser, seulement 7 en 2018, auxquels il faut ajouter bien sûr 45 enfants. Rappelons que à l'heure actuelle, il y a supposé, parce qu'il y a probablement des gens morts et on ne le sait pas, 700 Français ou résidents français qui sont en Syrie, auxquels il faut ajouter 500 enfants. Donc sur une population de 1200 familles de djihadistes, on a seulement 64 qui sont rentrés en 3 ans.
Alors s'il y en a aussi peu, c'est parce que l'État islamique donc ne contrôle plus ses frontières et c'est devenu extrêmement difficile de rentrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un djihadiste, il est un peu comme un migrant qui a besoin de passeurs.
Tout à fait. L'État islamique a été poussé ces derniers mois d'ouest en est, donc au bord de la frontière irakienne. Donc ce qui fait que les Français, qui ont suivi le mouvement comme les autres, ont toute la Syrie à traverser pour essayer de rejoindre une frontière, sachant que à la frontière irakienne les attendent les soldats irakiens qui sont prompts à interpeller, à juger et à condamner à mort les djihadistes étrangers. Donc la seule option, ça devient très très compliqué. Et ils passent par des passeurs. C'est exactement la même chose que quand vous venez de Chine ou d'Afrique, il va falloir passer par un premier réseau de passeurs pour rejoindre la Méditerranée, pour ensuite un deuxième pour traverser la Méditerranée, et après un troisième de Calais rejoindre la Grande-Bretagne. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous passiez des zones de guerre, des zones contrôlées. Alors, par les Kurdes, par les chiites, quand vous êtes sunnites, les chiites ont quelques raisons de vous en vouloir, et après les Turcs, à la frontière. Donc, il faut à chaque fois des passeurs spécialisés sur ces régions-là, donc repayés quasiment à chaque fois. Et donc, c'est l'estimation qu'on fait tirée de déclarations de quelques revenants de 2017. C'est qu'il en coûte à une famille, en gros, près de 10 000 euros pour passer, pour un résultat en plus très aléatoire.
Alors, 10 000 euros, vous dites qu'un homme vaut plus cher qu'une femme?
Et un enfant. C'est une raison très pragmatique. C'est que les passeurs considèrent que la femme ou l'enfant, a priori, ne sera pas recherchée par ceux qu'il faut éviter, quelles que soient les forces armées que je vous ai mentionnées tout à l'heure.
Alors que l'homme. Donc les risques sont moins grands, donc il coûte moins cher.
Et c'est plus compliqué sur quelqu'un qui est potentiellement un combattant, qui peut avoir été un émir, qui peut être quelqu'un de très recherché. Donc voilà, les prix
ce
montent.
Ce qui multiplie les risques. Après, il y a aussi les faux frais qu'il faut ajouter à ça. Vous expliquez qu'il faut 400 euros pour corrompre un garde frontière turc, qu'il faut 1000 euros pour des faux papiers syriens. 1400 euros, c'est plus cher pour des faux papiers turcs.
Oui, parce qu'on a passé la frontière et la Turquie, on est déjà au bord de l'Europe, donc ça coûte plus cher. Oui, il y a toute une série de faux frais. Pour un résultat, comme je vous disais, très aléatoire, parce que encore une fois, on passe plein de zones de guerre et plein d'endroits où les gens n'ont qu'une envie, c'est de vous attraper. Et puis, il y a les passeurs qui font coup double. C'est-à-dire, ils vont vous prendre votre argent. Alors, on cite un exemple d'un Il y avait plusieurs djihadistes français et leur famille. Il a pris leur argent, il leur a dit qu'il allait chercher la nourriture et les boissons et ils l'ont jamais revu. Et puis, il y a ceux qui vont prendre l'argent des gens et on les transporte dans des camions, on les met au fond, dans des cales, dans des machins. Et ben donc les djihadistes et leur famille ne voient rien. Et quand vous arrivez à la frontière, bah, y a certains passeurs, ils préfèrent les donner aux forces kurdes et empocher une autre prime.
Ils font coup double.
Et voilà.
Ce qui explique donc, il y en a aussi peu, enfin, ce qui est un élément de l'explication. Cela dit, quand ça coûte aussi cher, faut avoir de l'argent. Un djihadiste français en Syrie, après ses années passées là-bas, il n'a pas forcément cet argent.
Clairement, ils n'ont plus d'argent. C'est-à-dire qu'au temps du califat, c'était très réglé. L'État islamique versait un salaire aux combattants.
On était pris en charge.
Les femmes aussi, les enfants aussi, s'ils étaient inscrits dans les écoles du califat. Ça fait quand même longtemps maintenant qu'il n'y a plus ça. Donc les familles ont dû subvenir aux besoins de ceux qui étaient en Syrie. Les familles sont elles-mêmes exsangues. Le parquet et la DGSI ont fait tomber plusieurs réseaux. On a eu des procès avec des parents, ça a été médiatisé là aussi, condamnés parce qu'ils avaient versé de l'argent à leurs enfants terroristes. Donc il y en a certains qui n'ont pas envie de se faire prendre, il y en a qui réfutent l'idéologie de leurs enfants, et puis il y en a qui ont plus les moyens. Donc ça devient très compliqué, et par ailleurs, l'État islamique n'étant plus en capacité d'accueillir ou d'héberger, enfin d'avoir une structure même pour l'argent, ça devient très compliqué de faire parvenir de l'argent. Ça arrive encore, mais c'est très dur.
Ouais. Alors vous dites que donc la source se tarie, c'est-à-dire que de moins en moins de familles françaises envoient de l'argent aux djihadistes qui sont là-bas. Bon, cela dit, vous donnez le chiffre quand même de Tracfin. Ce sont 650 000 euros qui auraient été envoyés de la France en Syrie.
Alors, les 650 000 euros, c'est depuis quasiment la guerre en Syrie. Enfin, c'est la somme globale de Tracfin.
Sur plusieurs années.
Et par définition, à l'heure actuelle, il y a probablement des moins. Routes. Alors, il y a moins, c'est évident, mais il y a probablement des routes que, par définition, on ne connaît pas encore et qu'on découvrira au fur et à mesure des enquêtes. Je voudrais juste aussi préciser, c'est que comme ces gens sont livrés à eux-mêmes et qu'en gros naviguent par petits groupes, par grappes, dans des zones désertiques syriennes, les services de renseignement, pour l'instant, ont perdu de vue une grosse partie du contingent français qui subsiste. Et encore une fois, je vous disais, c'est quand même 1200 personnes, enfin 700 adultes. Donc, c'est compliqué parce que c'est des gens, pour l'instant, ils ont quand même peu de moyens pour communiquer, mais il suffit d'un ou deux qui peut avoir des moyens de communiquer et ça peut faire un attentat chez nous. Il y en a peut-être deux ou trois qui passeront un jour, qu'on ne verra pas passer et qui voudront prendre leur revanche sur la France. Rappelons-nous, il y a le cas de Peter Sheriff, un des jeunes de la bande des Buttes Chaumont, qui après sa détention, on l'a perdu de vue, il a rejoint le Yémen. Il est vraisemblable que ça soit lui qui ait aidé et actionné les frères Kouachi sur Charlie Hebdo 6 ans après, alors qu'il est paumé dans le désert avec Al-Qaïda.
Donc on n'a pas besoin, ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a pas besoin de revenir pour rester dangereux.
Il y a ça, et prenons le cas des gens du 13 novembre. C'était des gens qui avaient fait parler d'eux, sur lesquels la DGSI et les autres services avaient travaillé. Il y a un moment, les services de renseignement les perdent de vue. Et c'est malheureusement l'été 2015, et le moment où ils sont en train de rentrer, personne ne les voit passer, et ils commettent le massacre qu'on sait.
Il y a une 60aine de Français qui sont incarcérés actuellement en Syrie et en Irak. Ils vont devenir quoi ?
Il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire, d'un point de vue très pragmatique, pour notre sécurité, il peut y avoir une vision cynique, là aussi, de dire « laissons-les là-bas, comme ça, c'est pas nos prisons, ils ne vont pas contaminer des détenus chez nous ». Oui, sauf que l'avenir dans ce Moyen-Orient est quand même très incertain et appelé à avoir d'autres tumultes, qui nous dit qu'à un moment, l'Irak va pas s'écrouler, que les Kurdes vont pas libérer les gens ou pour nous faire un chantage vis-à-vis de la Turquie. Donc à un moment, tous ces détenus,
on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus
de
notre tête.
Et de la même manière, il y a l'argument inverse sur si on les a en France, ça a un coût de les avoir. Il n'y a pas de bonne solution.
Vous continuez à travailler là-dessus et on va bientôt pouvoir vous lire, puisque vous allez publier un livre.
Tout à fait, sorti le 7 novembre chez HarperCollins, ça s'appellera Les espions de la terreur et ça va révéler, c'est un peu les dessous des attentats, mais comment, contrairement aux idées reçues là aussi, l'État islamique s'était doté d'un service secret qui s'était inspiré principalement d'ailleurs de la CIA et de feu le KGB.
Eh ben on l'attend avec impatience, votre livre. En attendant, merci Mathieu Suc et passez un bon week-end. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Nicolas Cazot, à Paul Percheron qui était à la technique aujourd'hui. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour sa programmation musicale. Dans quelques instants, Denis Chessou, CEO de Mon Amour. Il y sera question de vers de terre et de frelons asiatiques, tout un programme. Quant à moi, au nom de la cellule investigation de Radio France, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end.